Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Chers auditeurs, bonjour. Nous retrouvons pour cette nouvelle émission Bernard Michon, maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Et nous accueillons également aujourd'hui et pour trois émissions l'historien Olivier Grenouillot. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bernard, je vous laisse présenter notre invité.
Olivier Grenouillot est actuellement directeur de recherche à l'Université Paris 4. Il est associé au Centre Roland Mounier. Après avoir été professeur à l'Université de Bretagne-Sud-Lorient et à Sciences Po Paris, il est membre de l'Académie européenne et de l'Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire du capitalisme, des traites, des esclavages et de leurs abolitions. Parmi eux, je signale trois références à nos auditeurs qui correspondent à notre émission d'aujourd'hui. Olivier Grenouillot a rédigé une histoire de Nantes qui vient d'être republiée aux éditions Ouest-France. Il a aussi consacré un livre à Nantes au temps de la traite des Noirs, édité chez Hachette et disponible en poche. Enfin, notre invité est l'auteur de L'argent de la traite, milieu négrier, capitalisme et développement, un modèle, publié chez Aubier. Ce livre correspond et reprend une partie de sa thèse de doctorat soutenue à l'université de Rennes 2 sous la direction du professeur Alain Croix.
Merci Bernard. Alors avec vous, Olivier Grenouillot, nous allons revenir sur le milieu des négociants armateurs nantais, sujet que nous avons abordé d'ailleurs à l'occasion d'une émission de la saison 1 avec Jean Breteau et lors de nos deux précédentes émissions avec vous, Bernard, consacrées à la figure de Guillaume Groulx. Alors ma première question, Olivier Grenouillot, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes venu à travailler sur ce sujet ?
Oh, je dirais qu'il n'y avait absolument rien d'évident. Lorsque, en 1988, je me suis inscrit en doctorat pour travailler sur l'histoire des familles de négociants armateurs négriers nantais. Rien logique, puisque à l'époque, on ne parlait pas beaucoup finalement de la traite et de l'esclavage à Nantes. Et certains m'avaient d'ailleurs indiqué que ce n'est pas forcément un sujet très porteur pour la recherche. Mais je dirais que j'avais suivi, comme étudiant auparavant, les cours à Nantes de Serge Daget, qui était le spécialiste incontesté en France de la question. Et Daget était un orateur, un grand orateur. Il nous parlait d'un sujet qui concernait des continents entiers, qui s'étalait sur plus d'un millénaire et qui parlait surtout d'hommes, puisque c'est l'histoire d'un infâme trafic d'êtres humains. Et c'est finalement Serge Daget qui, en nous captivant, nous étudiants, m'a incité, lorsque j'ai eu l'agrégation en poche, à m'inscrire en doctorat sous ses directions. Sur cette thématique.
Donc vous êtes devenu passionné par cette thématique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer combien de familles vous avez étudiées dans le cadre de votre thèse ?
Oh, j'ai à peu près 200 familles. Enfin, au départ, 200 noms d'armateurs négociants négriers. Et j'étudiais en fait non pas simplement ces personnages, mais leurs familles sur à peu près deux siècles.
Alors l'une des particularités de votre travail, Olivier Grenouillot, a été d'étudier ces lignages de négociants sur le temps long du XVIIIe siècle jusqu'à 1914. Quel est l'intérêt de cette démarche ?
Je dirais que il y a une énorme littérature sur la question, surtout anglo-saxonne. Et l'une des questions qui a beaucoup intéressé l'historien anglo-saxon, c'est celle de la rentabilité de la traite, et qui a été abordée souvent à partir d'un angle d'approche uniquement économique. C'est-à-dire qu'il s'agissait de calculer quel avait été le taux moyen de profit annuel de la traite. Voilà. Alors tous ces travaux ont été très très utiles, mais je me disais qu'il y a peut-être un moyen complémentaire, un autre moyen d'élargir le questionnaire, qui était non pas de ne pas s'intéresser uniquement aux aspects purement économiques, mais de resituer ces aspects économiques dans une démarche plus globale. Notamment avec trois questions. La première concerne plutôt l'économie maritime, à savoir quelle était la place de la traite dans les activités de ces négociants. Est-ce qu'elle était secondaire ou essentielle ? Ce n'est pas une question secondaire. Deuxième question, la question de la dynamique sociale. Est-ce que la traite a permis ou non, et dans quelle mesure, dans quel degré, l'ascension de familles négociantes ? Pour ça, évidemment, il faut calculer leur point d'arrivée, ça c'est facile, mais surtout essayer d'établir leur point de départ et voir la trajectoire entre ces deux points. Et puis il y avait une troisième grande question qui est celle de la dynamique, je dirais non plus sociale, mais politique, économique, culturelle. Ces familles de négociants qui se sont souvent enrichies, qu'est-ce qu'elles ont fait de leur argent ? Est-ce qu'elles ont transformé leur capital, je dirais, économique en capital politique et culturel? Et est-ce qu'elles ont assuré un pouvoir sur Nantes et sur la Basse-Loire? Et quelle était la conséquence éventuellement de cette emprise? Voilà. Et tout cela sur le temps long, parce que dans la fin du XVIIe siècle, hein, la première expédition négrière-nantaise, c'est vers 1688, jusqu'en 1914 où je me suis arrêté. La traite a bien sûr disparu, mais ces familles étaient encore là. Jusqu'en 14, donc il y a une très longue période marquée par la révolution industrielle, la révolution française, etc. Il était intéressant de voir comment ces familles avaient réussi ou non à perdurer à travers ces difficultés.
Vous écoutez Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon et Monsieur Grenouillot.
Olivier Grenouillot, vous avez cherché à retrouver les origines géographiques et sociales de ces négociants nantais que vous avez étudiés sur le temps long. Quels sont les principaux enseignements que vous avez pu mettre en évidence?
Oui, alors avant de parler des enseignements, peut-être rappeler quelle était la méthode de travail au départ. Je suis parti de répertoires dont on disposait à l'époque, sur les expéditions négrières nantaises au XVIIIe ou XIXe siècle. Donc j'ai établi une liste de noms, et puis n'ayant aucune connaissance de ce milieu, de ces familles, c'était il y a longtemps, 1988, et donc j'ai travaillé avec le Minitel à l'époque, pour voir s'il n'y avait pas des homonymes, des gens qui, dont le nom de famille se rapprochait des familles du XVIIIe siècle. Et par un travail de fourmi, j'ai essayé donc de disposer d'archives familiales et utiliser également toutes les archives publiques disponibles. Alors, les enseignements, ce n'est pas forcément à moi de le dire, et puis chacun, en lisant mes travaux, il trouvera un peu ce qu'il souhaite, mais
Je dirais que par rapport à mes questionnements de départ, il y a peut-être deux ou trois choses à indiquer. La première, c'est que je me posais la question de la dynamique sociale. Eh bien oui, la traite a permis effectivement d'impulser la dynamique sociale à Nantes. Il y a trois filières de départ, si vous voulez, si on s'intéresse aux pères de ceux qui sont devenus ensuite négociateurs amateurs. Une filière que j'ai appelée démocratique, c'est-à-dire que des gens, des familles issues du monde de la terre ou des petits métiers de la mer, à peu près 22%. Une filière aristocratique, des familles de la noblesse souvent bretonne, les Dufoux, les Laville-Boinet, qui bénéficient d'une forte position sociale, mais qui souvent sont désargentées et qui entrent dans la traite et le négoce maritime pour trouver un équilibre entre la position sociale et niveau de fortune. 14%, et puis dans la grande majorité, je dirais que les négociants amateurs sont déjà fils de négociants amateurs, 64%. Mais malgré tout, même lorsqu'ils partent déjà du négoce, la traite leur permet de s'enrichir davantage. Donc ça impulse énormément la dynamique sociale, ça c'est une évidence. Alors la part de la traite dans cela, elle n'est pas toujours facile à calculer, puisque ces amateurs n'ont jamais été, pour l'essentiel, uniquement négriers. Hein. Ils investissent à la fois dans quantité de trafic. Deuxième questionnement, c'était les conséquences un petit peu de cette réussite sociale. On peut dire que ces amateurs, ces familles, ont réussi à s'implanter durablement à Nantes, à truster quantité de pouvoir, puisqu'ils ont investi dans la culture, dans la politique. Certains sont maires de Nantes, maires des communes avoisinantes. Et donc, il y a une emprise, si vous voulez, de ces familles issues du négoce qui dure au moins jusqu'en 1914. De temps à autre, cette emprise est un petit peu bouleversée, concurrencée notamment après 1850 et surtout dans les années 80, avec l'émergence de l'agroalimentaire, puisque viennent à Nantes des gens issus d'autres régions. Lefèvre utile vient de la Meuse, Maurice Amieux, la conserverie vient des Hautes-Alpes, et donc progressivement arrivaient de nouvelles élites. Mais pendant très très longtemps, je dirais que ces familles de négoce ont un peu freiné le renouvellement des élites locales.
Et justement, j'aimerais vous poser une question sur une famille en particulier. Vous avez eu accès à des archives privées, notamment des familles donc de négociants armateurs, comme vous nous l'avez indiqué, et notamment de la famille Monneron-Dupin. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce fameux Joseph Monneron et la source que vous avez publiée ?
Oui, alors ça a été publié en 1995. Donc c'est une source assez unique, puisque c'est quelqu'un qui est donc fils d'un capitaine de barque vendéen, qui devient négociant amateur à Nantes et qui écrit pour ses enfants un manuscrit dans lequel il raconte ses années de formation. Et il a lui-même participé à la traite comme novice sur un navire. Et donc c'est une source assez unique, puisque ça fait plus d'une centaine de pages, qui nous montre quel est ce milieu de l'intérieur. Alors comment j'ai trouvé, un peu par hasard, puisque finalement, à force de poser des questions à droite et à gauche, je suis tombé un jour sur un ancien commissaire-priseur qui m'a dit se rappeler avoir vu 20 ou 30 ans auparavant, dans un meuble qu'il vendait, un manuscrit intéressant. Et je suis arrivé ainsi comme cela. J'étais des représentants de la famille Monneron-Dupin qui m'ont ouvert leurs archives.
Une histoire passionnante. Merci Olivier Grenouillot et Bernard Michon. On se retrouve la semaine prochaine. Nous allons parler de l'abolition de l'esclavage, ce que notre invité a qualifié de révolution abolitionniste dans un de ses derniers ouvrages. Merci aux auditeurs qui nous suivent. Excellente fin de journée. C'était Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la mémoire, avec à la technique José Pasquale.